Béni soit le Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse : Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Là, nous avons lu ensemble dans ce texte ces paroles de Dieu données à Josué, mais qui nous concernent et qui sont pour chacun de nous ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et bon courage. Et cette répétition encore à la fin de ce passage, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est celui qui nous appelle à prendre courage, chacun de nous ce soir. Et s'il nous appelle à prendre courage, c'est qu'il sait que, eh bien, on peut perdre courage. Un chrétien peut perdre courage. C'est quelque chose qui arrive, et je dirais c'est quelque chose de normal. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Une épreuve qui dure, la solitude, la maladie, il peut y avoir la nature charnelle. Ça peut nous amener à perdre courage parfois, ces combats, ces luttes intérieures envers nous-mêmes, ces difficultés qu'il y a à prendre certaines victoires, à demeurer ferme en Christ, peuvent amener un certain découragement. Il peut y avoir d'autres raisons, des frères, parfois des frères en Christ dans l'Église, peuvent être malheureusement une source de découragement. On voit plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent cela. Des situations de péché, toutes sortes de choses qui peuvent être une source de découragement. Voyons dans le psaume 40, verset 13, ce verset qui nous dit « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. » Mon courage m'abandonne. On voit que la Bible est remplie d'exemples d'hommes de foi, comme là, à ce moment-là, le psalmiste dans le psaume 40, qui nous montre, qui était un homme de foi, mais qui a pu un temps perdre courage. Mon courage m'abandonne. Il a pu un temps passer par cette situation, un temps. Et s'il arrive de passer un temps par un découragement, comme je le disais, c'est quelque chose de normal. Par contre, ce qui est anormal, c'est de rester découragé. C'est de rester dans une situation où on est affligé, abattu. Parce que nous voyons dans ce passage que nous avons lu dans Josué chapitre 1er, plus qu'un appel à prendre courage, un ordre. Le Seigneur nous donne un ordre ce soir. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur nous appelle à prendre courage. Comme Josué. On a vu dans ce passage Josué qui venait de prendre la succession après Moïse et qui était là en tant que responsable au sein du peuple d'Israël. Et il avait une lourde charge, une lourde responsabilité. Pas beaucoup de personnes auraient couru se mettre à sa place. Et on peut comprendre la pression qu'il devait subir. Et à ce moment-là, il avait besoin d'être fortifié, besoin d'être encouragé. Et si le Seigneur lui a dit « ne t'effraie point, ne t'épouvante pas », c'est qu'il y avait des raisons. Et c'est que très certainement, c'était sa situation, c'était très certainement ce qu'il se passait dans son cœur. parce qu'il savait la responsabilité devant Dieu de conduire le peuple de Dieu, mais il savait aussi les difficultés, parce que ce peuple, combien de fois, avait été enclin justement à tomber dans le découragement, à être rebelle envers Dieu, envers ses responsables, à être dans l'incrédulité, à être désobéissant. Et il connaissait le peuple de Dieu, il savait ce qui s'était passé dans le passé quand Moïse le conduisait. Il voyait tout cela et il avait vraiment besoin d'être très très encouragé. Et c'est pour cela que Dieu va lui parler. Et à plusieurs reprises, on voit d'une manière insistante dans ce passage, cette répétition. Et ce n'était pas seulement dans ce passage que Josué a entendu ces paroles, mais déjà à partir du chapitre 31 du Deutéronome, on peut voir quelques pages avant que Dieu avait parlé à Josué. Au travers de la bouche de Moïse, dans Deutéronome chapitre 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui les en mettras en possession. » Et on peut voir dans le même chapitre, au verset 23, « L'Éternel donna ses ordres. » On voit encore cette notion d'ordre que Dieu donne à Josué, mais qu'il nous donne à chacun de nous ce soir. Il y a un ordre que le Seigneur nous donne. « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. » Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Alors vous allez me dire, peut-être pour nous ce soir, nous vivons des temps bien différents de celui de Josué à ce moment-là. Et certes, nous ne sommes pas tous appelés au même service que Josué. D'ailleurs, ça serait compliqué aujourd'hui. Mais il y a un message que Dieu veut nous donner. Même si c'est bien différent ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, même s'il peut y avoir un grand décalage, eh bien, il y a néanmoins un exemple que Dieu nous donne dans sa parole, un modèle, et il y a un message. Dieu nous parle ce soir, et cet exemple est valable pour chacun de nous. Si Josué a su, dans les circonstances qu'il traversait, prendre courage pour avancer, eh bien, nous pouvons de la même manière prendre courage et avancer dans notre marche avec le Seigneur. Et quelles que soient les difficultés, les circonstances, les épreuves, les oppositions qui pourraient être là. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais voir avec vous. J'aimerais voir deux points. Le premier, comment prendre courage. Et le second, donner du courage. Alors le premier, comment prendre courage. Comment prendre courage quand autour de nous, ça va mal. Quand autour de nous, il y a des problèmes, des difficultés, peut-être dans notre travail, des accusations injustes. Comment prendre courage quand dans notre situation, tout est compliqué. Quand nous n'avons pas d'espoir, quand dans notre famille, il y a des conflits avec mon épouse, quand mes enfants ne m'écoutent pas. Comment prendre courage dans de telles situations? Comment prendre courage quand on est abattu et quand il y a de lourdes épreuves telles que une séparation d'un proche, telle que la maladie, comme je le disais tout à l'heure? Comment prendre courage quand on voit ces situations et que rien ne change? Comment prendre courage? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il nous faut savoir, c'est que si Dieu nous dit « prends courage », c'est qu'on peut prendre ce qu'il nous donne. Parce que Dieu ne nous dira jamais de prendre quelque chose qu'il ne mettrait pas à notre disposition. S'il nous dit « prends courage », c'est que nous n'avons plus qu'à saisir, qu'à prendre, que c'est pour nous, que c'est accessible. Et la question maintenant, c'est celle-ci. Veux-tu prendre courage? Veux-tu prendre courage ce soir? Veux-tu prendre courage dans, justement, ta situation, celle que tu peux vivre personnellement? Nous avons vu comment Josué, dans ce passage, a été interpellé par Dieu, et les paroles qu'il a reçues, et quand on poursuit la lecture, on voit comment il a su faire face et avancer et prendre courage. Mais j'aimerais prendre avec vous deux autres exemples dans la Bible, deux autres hommes qui eux aussi ont su, dans des difficultés, dans des situations compliquées, prendre courage. Et le premier, c'est David. J'aimerais voir ensemble ce passage dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'imprégner de ces exemples ce soir afin d'agir comme ces hommes ont agi, afin d'imiter leur foi, afin de prendre courage. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisréel et Abigaïl de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On voit donc ce passage, une situation compliquée, difficile pour David. Il venait de vivre une attaque de la part des Amalécites dans le lieu où il se trouvait. Et les personnes qui étaient avec David, ainsi que David, venaient de voir leur famille, tout ce qui leur appartenait, être enlevé. Et on peut s'imaginer que ces hommes devaient s'imaginer le pire pour leurs femmes, leurs enfants, leur famille. Très certainement qu'ils devaient s'imaginer qu'ils avaient été enlevés, mais peut-être pour certains tués. Et on voit ce passage où il nous est dit, ensemble ils élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais voilà une situation vraiment compliquée. Ils étaient dans cette situation, ils n'avaient plus la force de pleurer, ils avaient vidé toutes les larmes de leur cœur, de leur être. Et ce soir, je ne sais pas si tu passes justement par des situations compliquées, difficiles, à pleurer et à aller jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Mais de la même manière qu'il y a eu un « mais » à ce moment-là pour David, dans ta vie ce soir, il peut y avoir un changement. Parce que Dieu connaît tout. Et Dieu n'est pas insensible à ce que nous pouvons vivre, à notre marche avec lui. La Bible dit qu'il entend les larmes, il entend la voix des larmes de nos cœurs. Il entend la voix des larmes. C'est ce qui nous montre que Dieu connaît. Même quand on ne parle pas, même quand on ne s'exprime pas, Dieu entend. Dieu entend et voit les larmes qui coulent et qui sont là. Et de la même manière qu'il y a eu un « mais » pour David, ce soir il peut y avoir un changement. Si de la même manière tu choisis, parce que c'est un choix, David, comment il a repris courage à ce moment-là? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce soir, j'aimerais te demander, qui est ton Dieu? On voit que David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est vrai que Dieu est le Dieu de l'Église, de tous les croyants, de tous ceux qui placent leur foi en lui, de tous ceux qui s'attachent à lui. Mais on voit là que Dieu est aussi, au travers de ce verset, eh bien, il est celui qui est notre Dieu d'une manière personnelle, quand on s'appuie sur lui. Et j'aimerais te demander, quel est ton Dieu? N'est-il pas celui qui est souverain? Celui qui est au-dessus de tout? Celui qui a tout pouvoir? N'est-il pas celui à qui tout est possible? Alors si c'est lui ton Dieu, eh bien ce serait quand même dommage de rester dans une situation en étant abattu, découragé. Ce soir, choisis de la même manière que David, de t'appuyer, oui, sur l'Éternel, le Tout-Puissant. Choisis ce soir, afin qu'il y ait ce changement, afin que, eh bien oui, de nouvelles forces viennent, et afin que ce courage qui vient de Dieu, eh bien, prenne place là dans ta vie et dans ton cœur. Comme David dans cette situation. Voyons David, j'aimerais voir un autre exemple avec vous. Dans le Nouveau Testament, il s'agit de Paul, dans les Actes des Apôtres. On peut voir ce verset dans Actes 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc on voit une parole que Dieu a donnée à Paul à ce moment-là. Il l'a appelé, lui aussi, l'apôtre Paul, à prendre courage, parce qu'il en avait besoin. « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et quand on regarde le contexte, on voit que Paul venait de s'être fait arrêter par les responsables religieux, juifs, dans Jérusalem. Il s'était fait arrêter, avait été amené devant le Sanhédrin. Et là, devant le Sanhédrin, alors qu'il était à deux doigts d'être... être tué, il avait été pris et amené dans une forteresse par les responsables romains qui gouvernaient à ce moment-là. Et la nuit suivante où ces choses se sont passées, le Seigneur est apparu à Paul. Est-ce que Dieu peut encore nous apparaître à nous aussi ? Dieu est toujours le même. Et il peut, oui, nous apparaître. Il nous parle en tout cas. Ce soir, il nous parle et nous appelle de la même manière qu'il a appelé Paul à prendre courage. Car il a pu lui donner une parole vraiment précise sur sa situation. De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il y avait une parole de Dieu sur cette situation, une parole pour Paul, qui l'a mené à comprendre que oui, il en était là à Jérusalem, mais il fallait qu'il aille à Rome. Et par la suite, on va voir donc comment il va aller à Rome. Il va être conduit à monter sur un navire. Et par la suite, on va voir qu'il va se retrouver dans une tempête. Et alors que le navire est là, dans cette tempête, Paul va se retrouver à encourager tout ce qui était là autour de lui, tout ce qui était là sur ce navire. On peut voir cela dans Acte 27, quelques pages après, verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Et il va dire pourquoi même, et on voit comment Dieu est revenu encore pour fortifier, encourager Paul. Il va préciser « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Il lancera comme il m'a été dit. » Paul avait cette assurance dans son cœur, cette confiance en Dieu. Il savait que Dieu accomplissait sa parole. Et nous le savons, nous aussi, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors puissions-nous de la même manière, parce que c'est ce qui s'est passé en plus par la suite, tous ont repris courage, de la même manière, puissions-nous nous appuyer sur l'Éternel, être à l'écoute de sa parole, de ce qu'il nous dit, dans la situation dans laquelle nous pouvons être, car nous avons cette assurance que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il ne nous ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, il ne se joue pas de nous. Et il veille sur sa parole. Et s'il nous appelle, à savoir qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, il nous appelle à veiller sur sa parole. Comme nous avons chanté, merci pour ta parole. Cette parole, oui, si précieuse, c'est ce qui nous donne d'être encouragés. Et on voit que, d'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Ça a été la parole de Dieu pour Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a une promesse certaine. Mais quand on fait ce que le Seigneur nous demande, quand on obéit, et quand on s'applique à se nourrir de sa parole, oui, il y a cet encouragement qui est là, qui prend place dans notre cœur. Quand on obéit, quand on ne se détourne pas de la parole, ni à droite, ni à gauche, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Oui, il veille sur sa parole, mais il nous appelle à veiller aussi sur sa parole pour l'accomplir. Alors, comment on prend courage ? Comment on prend courage par rapport à cette question, maintenant dans les situations qui nous concernent? Comment on prend courage? Eh bien, comme on l'a vu, quand on regarde à Dieu, et non pas à nous, hein, non pas à nos capacités, non pas à nos limites, non pas à nos faiblesses, à nos manquements, mais quand on regarde à Dieu, hein, c'est là qu'on prend courage. Courage est auprès de lui. Et on prend courage quand on s'appuie sur l'Éternel. Comme David qui, oui, s'est appuyé sur l'Éternel. On prend courage quand on garde sa parole dans nos cœurs, comme Paul à ce moment-là. Voilà comment on prend courage. Si donc on voit comment on prend courage dans ces passages, le Seigneur, plus que de nous appeler à prendre courage, il nous appelle aussi par la suite à savoir donner du courage, à être une source d'encouragement, une source de bénédiction. On peut voir cela dans Hébreux chapitre 3, verset 13, il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Il y a une parole là aussi, est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un conseil? Il y a une direction. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est notre responsabilité. Voilà ce à quoi nous appelle, Dieu nous appelle, à nous exhorter. Nous exhorter, c'est ce que ça signifie, nous encourager les uns les autres. Et il y a ce devoir. Et on en a tous besoin. On a tous besoin d'être encouragés, qui que l'on soit, que l'on soit responsable dans l'Église, pasteur, ancien, qui que l'on soit, on a tous besoin d'être encouragés. Personne n'est exclu. Mais on a aussi besoin d'encourager les autres, ceux qui sont autour de nous, de ne pas vivre d'une manière solitaire. Parce qu'il y a une importance. On voit cette raison, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de nous encourager. Savoir, dans nos réunions, prendre le temps de justement encourager un frère, encourager une sœur. Parce qu'il nous faut savoir veiller. Il nous faut savoir nous encourager à cela. À savoir veiller par rapport aux pièges du diable qui sont là. Hein, à la séduction du péché, aux difficultés, aux épreuves, à savoir persévérer dans la prière. Sachons nous encourager les uns et les autres à persévérer dans cela. Mais Seigneur ne nous appelle pas à nous encourager seulement ici, là, dans nos réunions, parce que c'est presque, je dirais, le plus facile dans les moments où on se retrouve. Savoir nous exhorter chaque jour, c'est bien différent que quand on se rencontre dans nos réunions et quand on se dit simplement « Allez mon frère, ma sœur, bon courage, hein, par rapport à ta situation, à ce que tu vis, bon courage, je suis avec toi, je prie pour toi. » C'est plus que cela, savoir nous encourager, nous exhorter. C'est chaque jour, on le voit, il y a une indication, c'est pas que pendant les temps de réunion, c'est chaque jour. Et Dieu nous appelle à savoir justement, savoir prendre le temps avec un frère, une sœur, prendre le temps d'être à l'écoute. Parce que savoir encourager, ce n'est pas toujours parler. On peut encourager sans parole. Simplement en étant à l'écoute d'un frère, d'une sœur qui a besoin de parler. Qui a besoin de quelqu'un sur qui justement se confier, s'appuyer. Et il y a plusieurs manières en tout cas de s'encourager. Et je ne vais pas les étaler, mais puissions-nous nous... justement, recherchons ces choses, à nous encourager, pas seulement ici, hein, mais dans notre quotidien, à savoir penser aux frères, aux sœurs, un message, un appel. Parfois, c'est rien du tout, mais combien les effets peuvent être grands et importants dans la vie de certaines personnes qui sont fatiguées, chargées. Et puis, il se passe quelque chose de bien particulier quand on se met à mettre en pratique cela, faire ce que le Seigneur nous demande. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, c'est que quand on se met à encourager ceux qui nous entourent, bien souvent on finit par oublier nos propres difficultés, ou en tout cas les voir différemment, et à mieux les traverser. Quand on s'applique à rechercher les intérêts d'autrui, les intérêts de ceux qui nous entourent, de nos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que oui, on détourne nos yeux de nous-mêmes. Alors après, il y a un autre aussi penchant dans lequel il ne faut pas tomber, c'est C'est dans celui de justement s'occuper que de ce qui nous entoure, sans jamais savoir justement pour nous-mêmes, notre propre situation, savoir prendre courage. Parce qu'il y a des personnes qui sont fortes et qui ont le don d'encourager, d'exhorter ceux qui sont autour d'eux d'une manière réelle, sincère, mais qui sont que tournés vers les autres, sans jamais savoir aussi puiser pour eux-mêmes. Et il y a ce besoin, cette importance. Et peut-être ce soir, le Seigneur, justement, te dit par rapport à ta situation, peut-être savoir, oui, penser aux autres pour encourager, mais savoir aussi toi-même prendre courage pour ta vie, ta situation. On voit dans la Bible, je prendrai courtement cet exemple de cet homme qui a justement été reconnu pour cela, qui était appelé fils d'exhortation. Et on voit cela dans Actes 4, verset 36. Il s'agit de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'était son surnom. Il avait été appelé Barnabas. Et c'est merveilleux de voir dans la parole le témoignage de cet homme, cette source de bénédiction qu'il était pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Comment Dieu l'a conduit à être, oui, une source de bénédiction. Mais parce qu'il s'était appliqué à cela, parce qu'il, justement, obéissait, faisait ce que le Seigneur lui demandait. Et je me suis demandé quel surnom on pourrait nous donner, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui. On voit que cet homme a été surnommé Barnabas, qui signifie « fils d'exhortation ». Et nous, aujourd'hui, quel surnom on pourrait nous donner? Quel surnom on pourrait te donner? Il y a certaines personnes, peut-être qu'on pourrait les surnommer « jamais content », « toujours triste », « toujours négatif », « l'homme qui ne parlait pas », « la femme qui parlait trop ». Alors, ce n'est pas pour dire que les hommes parlent moins que les femmes. Hein. Ça peut être l'homme qui parle trop aussi. Quel surnom on pourrait nous donner? Alors, on ne va pas le faire ce soir, on n'est pas là pour rechercher ça. En tout cas, on nous donnera le surnom qu'on choisira finalement d'avoir en nous appliquant à obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui marquera notre marche et c'est ce qui sera vu. L'homme qui parle, oui. L'homme qui s'est exhorté, que aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, à savoir communiquer une grâce, communiquer un encouragement, savoir veiller à justement ce qui sort de notre bouche et à nous appliquer à exhorter, afin d'être, oui, des fils, des filles, d'exhortation. Je trouve que ce surnom est quand même merveilleux. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais je pense que nous pouvons aussi encore voir dans nos églises, au milieu de nous, des fils, des filles d'exhortation. Et je sais qu'au milieu de nous, nous en voyons, mais continuons à persévérer dans ces choses, en veillant vraiment les uns sur les autres, afin que personne ne soit oublié. J'aimerais terminer en disant, ne perdons pas courage, mais prenons courage. Ou reprenons courage, alors que ce monde s'encourage à aller. Hein, ce monde s'encourage, parce que l'ennemi de nos âmes aussi s'est encouragé à aller vers le mal. Et ce monde, on le voit, il s'encourage à aller dans cette direction. Mais le Seigneur, lui, nous appelle à prendre courage. Et j'aimerais terminer avec vous sur ce passage dans Ésaïe, chapitre 41, verset 6. Regardez ce merveilleux passage, cette parole que Dieu nous donne. Ésaïe chapitre 41, verset 6. Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Voilà, ça c'est le monde. C'est ce qui se passe dans le monde. Ils s'encouragent à se tourner vers des idoles, des dieux étrangers, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. Mais toi, verset 8, regardons ce que Dieu nous dit ce soir, de manière personnelle. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Regardez cet encouragement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est là, il est là au milieu de nous, il vient jusqu'à nous. Il vient ce soir encore nous encourager, nous interpeller, nous rappeler. Hein, parce que nous voyons comment cette parole, Josué, il l'a entendue et réentendue. Parce que Dieu lui a rappelé, Dieu sait nous rappeler ce dont on a besoin d'entendre. Il sait insister et il sait nous éclairer aussi sur les ordres aussi qu'il veut qu'on mette en pratique. Et ce soir, Dieu nous a parlé. Alors puissions-nous choisir maintenant, parce que c'est un choix. Veux-tu maintenant dans ta situation qu'il y ait un changement? Veux-tu prendre courage? Veux-tu expérimenter le secours de Dieu, la grâce de Dieu, par une décision simplement? Le Seigneur est celui qui nous encourage. Alors puissions garder ces choses à cœur et ne pas nous décourager, mais continuons de persévérer, parce que sa droite triomphante, elle n'est pas faible. Sa droite triomphante, elle est toute puissante pour venir encore nous prendre, nous porter, nous amener plus loin. Cette droite, elle est victorieuse. Et on sait que cette victoire, elle est là, elle est pour chacun de nous, parce que Jésus-Christ l'a acquise à la croix. Et c'est celui qui nous donne le pouvoir, oui, être victorieux, triomphant. Cette droite, elle est là. Et Dieu veut justement poser sa main sur toi et te bénir encore ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse justement pour cela terminer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là tous ensemble devant toi, dans ta maison et sous ton regard. Nous voulons encore te dire, oui, de tout notre cœur, merci pour ta parole. Nous te rendons grâce pour cette parole précieuse, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous amène plus loin, cette parole qui nous pousse à nous confier en toi, nous appuyer sur toi. Tu sais ce dont nous avons besoin et ce soir tu vois le cœur de chacun de nous. Seigneur, je te prie encore d'intervenir, d'agir au milieu de nous. Seigneur, ensemble, oui, nous nous associons dans la prière. Et nous voulons garder les yeux fixés sur toi, les détourner de nous-mêmes, des difficultés, des souffrances par lesquelles nous pourrions passer, pour les tourner vers toi, nous appuyer sur toi, garder ta parole dans nos cœurs, parce que nous savons que oui, ta parole, tu l'accomplis. Et nous savons que tu es celui, Seigneur, qui délivre, celui, Seigneur, qui fortifie. C'est toi notre force. Et ce soir, je te prie d'étendre ta main encore sur tous ceux qui peuvent être abattus, fatigués, découragés, sur tous ceux qui ont pu voir dans leur vie le courage les abandonner. Je te prie vraiment afin qu'il y ait, oui, dans leur vie aussi un mais, par leur décision, par leur attitude ce soir, par leur foi, leur conscience. Seigneur, je te prie d'intervenir au milieu de nous, de relever. Seigneur, te prions d'étendre ta main, ta droite triomphante, ta droite victorieuse sur chacun. Merci pour ce que tu fais encore au milieu de nous. Oui, parce que tu es celui qui nous donne de prendre courage. Et quelles que soient les circonstances, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, tu vois ceux qui ont un mari, une épouse, un converti. Tu vois ceux qui ont des difficultés dans leur famille, avec leurs enfants. Tu vois ceux qui ont des épreuves, Seigneur, dans leur quotidien. Seigneur, ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui, Seigneur, sont éprouvés loin de toi. Seigneur, vraiment étends ta main sur chacun de ce soir, que ce soit dans ce lieu, ce soit, Seigneur, auprès de tous ceux qui n'ont pas pu venir aussi. Nous voulons te les apporter encore, te demander vraiment ta grâce, oui, parce que nous savons que tout nous vient de toi et qu'il y a cette abondance auprès de toi, l'abondance de ta grâce qui vient nous secourir parce que tu as payé le prix. Seigneur, bénis, Seigneur, ton église encore ce soir. Bénis l'église de Sainte-Agne, tous tes enfants, tous ceux qui sont venus. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas peut-être et qui ont besoin de toi. Éclaire-les, Seigneur, et conduis-les, Seigneur, à Seigneur t'accepter comme étant leur Dieu. Toi, le Dieu vivant et vrai, celui qui, oui, est pour chacun de nous une source d'encouragement. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour cette réunion encore. Merci pour ta présence. Amen. Gloire à toi Seigneur.